Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Katel Kieveré à propos du film Le Temps d'Aimer. Il paraît que le projet a une origine personnelle.
Oui, absolument. Le point de départ de ce film, ça s'inspire de l'histoire de ma grand-mère dont j'étais très proche. Il se trouve qu'elle a eu une histoire avec un soldat allemand pendant l'occupation en France. Et c'était sa première histoire, je pense. Elle avait 17 ans et elle est tombée très vite enceinte. Elle s'est retrouvée mère célibataire, en fait, à 17 ans. Et elle a rencontré mon grand-père 4 ans plus tard. Il était d'un milieu social beaucoup plus aisé que le sien. Et contre l'avis de sa famille, il a épousé ma grand-mère, il a adopté cet enfant. Et ils ont gardé le secret de cette paternité toute leur vie, en fait. C'est quelque chose qui est resté secret dans toute la famille et qu'on a découvert. Elle avait déjà plus de 80 ans.
Vous l'aviez ignoré pendant un temps de votre enfance?
Oui, j'ai toujours su que ma grand-mère avait un secret. En fait, d'une certaine manière, elle me l'a toujours fait sentir. Je ne sais pas comment. Mais en même temps, je savais aussi que j'avais pas le droit de savoir quoi. Donc il a fallu un peu lui arracher cette vérité. Et le film parle de ça, il parle aussi de justement comment un pays a toujours une histoire officielle, une famille a toujours une histoire officielle, et puis il y a toujours une histoire souterraine, en fait, que les adultes cachent malgré eux, et qu'il faut aller chercher. Voilà.
L'élément de l'histoire qui consiste à revenir sur les affaires, les liaisons qu'ont pu avoir des femmes de pays occupés avec l'ennemi, quelque chose qu'on tait beaucoup à chaque fois que ça se produit, et qu'on montre pas beaucoup non plus au cinéma.
Alors, en tout cas, en France, des films qui parlent du parcours de femmes qui ont été tondues à la libération, notamment, il y en a peu, très peu. Je pense qu'il y a Hiroshima, Mon Amour, notamment. C'est un des rares. Je pense que tout simplement, pendant très longtemps, en fait, ces femmes ont quand même été perçues comme coupables, tout simplement. C'est comme ça que ça nous était transmis, même à l'école, quoi, dans l'histoire. Voilà, on avait quelques images de femmes tondues et au fond, on se disait un peu banalement que voilà qu'elles avaient payé pour ce qu'elles avaient fait. Enfin, moi-même dans ma génération qui a 40 ans, je pense qu'on a quand même grandi sans se poser trop de questions sur ces femmes. Et voilà, donc ça fait. Je trouve que c'est hyper important et passionnant en fait de revoir ces faits et surtout de regarder ces images d'archives que j'ai été chercher et qui sont inédites pour la plupart dans le début de mon film. Personne n'a jamais vu de les regarder aujourd'hui avec juste en plus. Enfin, ce qui est devenu le mouvement féministe aujourd'hui, en fait, c'est hyper intéressant de repenser, hyper important, en fait, de repenser ces événements et de les regarder, en fait, comme ils sont vraiment, c'est-à-dire, en fait, des actes de torture.
Justement, j'allais dire, les images d'archives, donc, qui servent d'introduction, on les voit peu, peut-être aussi parce qu'on a un peu honte, en effet, mais ensuite, le reste du film, votre fiction, ce que vous avez filmé, sont pas des images qu'on voit non plus souvent sur cette période. Vous n'avez pas filmé d'une manière qu'on voit. On est dans une intimité telle qu'on, voilà, avec des costumes, des musiques, des faits qu'on connaît peu au cinéma, en fait. Pourtant, c'est de ça si la période a été dépeinte maintes fois.
En fait, j'avais très envie de faire un mélodrame d'époque. Un vrai mélo, et en même temps, j'avais très à cœur de faire un film très moderne, en fait, avec des thématiques qui soient complètement d'actualité. Donc le film, il est le résultat de ce désir contradictoire, de ma propre ambivalence, d'un mélange de fascination pour Douglas Sirk, par exemple, mais aussi pour Maurice Pialat, donc des directions de cinéma complètement opposées. Et je pense que ça a été ma manière à moi d'éviter l'écueil d'un film d'époque trop figé ou d'un genre un peu déjà éculé et de faire dialoguer en fait le présent et le passé, de trouver ma singularité à travers ces influences là quoi. Donc c'est vrai que voilà, il y a l'ADN du mélodrame dans le film, dans la construction narrative du film. Je joue beaucoup avec les codes du genre. Voilà, c'est la rencontre entre deux personnages que tout oppose. Il y a ce souffle romanesque. Ils sont constamment en fuite. Ils alternent entre moments de joie et puis il y a toujours une menace qui pointe, des épreuves, des difficultés. Et en même temps, l'esthétique du film ne va pas du tout dans le sens du mélo. notamment parce que je ne déploie pas d'artillerie lourde en termes de reconstitution, mais aussi en termes de plans. Il n'y a pas de machinerie, par exemple, ce qu'il y a toujours dans les mélos. C'est un film entièrement filmé à l'épaule, de manière assez légère. La relation à l'émotion aussi est différente, c'est-à-dire qu'il y a parfois l'émotion est dans une très grande pudeur, sécheresse. Il n'y a pas ce lyrisme permanent. Ça serpente entre de la sécheresse et du lyrisme, en fait. Et voilà. Et en fait, les thèmes qui sont inhérents au film sont des thèmes qui résonnent vraiment avec aujourd'hui. Donc, c'était ma manière aussi de les révéler, quoi. Mm-hmm. On peut utiliser le mot mélo pour taxer un film de trop sentimental ou de too much. Donc, ça peut avoir une connotation négative aussi, parfois en France. Un film un peu larmoyant. Pour moi, en fait, le genre du mélodrame, c'est un genre que j'identifie au cinéma de Douglas Sirk, par exemple, ou de James L. Brooks, ou plus récemment d'un Todd Haynes. Ce qui, moi, me plaît énormément dans ce genre-là, c'est sa dimension romanesque, c'est-à-dire l'ampleur du récit, tout en étant très intime, la relation à l'émotion. Moi, en tant que spectatrice, je vais avant tout au cinéma pour avoir une relation émotionnelle intense à ce que je vois. Et je crois beaucoup à la dimension cathartique du cinéma. On y va pour se faire rire, se faire pleurer, se faire peur, sans danger, comme dans un parc d'attractions où voilà, on reste attaché à son siège. Donc, c'est ce que j'essaie de donner de manière généreuse aux spectateurs dans mes films. Une relation forte aussi à l'émotion, au romanesque. Et voilà, c'est sans doute ce qui m'intéresse le plus dans ce genre-là.
Et ce qui vient au support de ces émotions amples, c'est aussi le fait qu'on a de la musique, de la danse, qu'on est dans un espace, non seulement l'espace de cette relation, mais aussi des espaces qui sont des espaces vivants, du dancing, le lieu où elle travaille. En fait, où Madeleine travaille et veut tracer son rêve, peut-être de voir des gens qui rient, dansent et chantent. Et évidemment, on sait que vous appréciez la musique et les beaux costumes dans vos films.
Je pense que ce qui fait partie aussi du pari d'un film d'époque comme ça, c'est de faire voyager le spectateur et je crois beaucoup aussi à cette fonction-là dans le cinéma, c'est-à-dire mêler le divertissement à la profondeur des émotions et de la réflexion. Moi, j'essaie profondément de faire des films d'auteurs populaires, on va dire, ce qui est difficile à atteindre. Mais c'est ce vers quoi je tends parce que je fais vraiment des films pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Mm-hmm. Donc j'essaie de progresser dans ce genre-là, on va dire. Je sais pas si c'est un genre, mais en tout cas dans cette direction-là, quoi. Et le fait de changer de décor et de changer d'ambiance et que le film soit toujours surprenant, en fait. Parce que c'est un film intimiste, c'est pas un thriller, il y a pas de meurtre, il y a pas de rebondissement hallucinant, mais en fait, il y a constamment des événements auquel on ne s'attend pas. C'est un film dans lequel on peut rentrer un petit peu doucement en se demandant mais où on va, qu'est-ce que ça va nous raconter vraiment, de quoi ça va nous parler. Il y a tout un temps comme ça d'installation du processus qui peut flotter un peu. Et à un moment en fait, on nous embarque complètement. Et ensuite, on ne sait jamais en fait où le film va nous emmener. Et c'est quelle époque, quelle situation, et ça, pour moi, ça fait partie de la fluidité du film et du plaisir du spectateur à se laisser emporter dans un flux.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le choix des acteurs, donc Vincent Lacoste pour le rôle de François et bien sûr Annalise de Moustier pour le rôle de Madeleine?
Alors, je cherchais des acteurs français, donc il y a une petite trentaine pour qu'ils puissent avoir 20 ans au début du film et presque 40 à la fin, puisque le film se passe sur une vingtaine d'années. Anaïs et Vincent sont des acteurs que j'admirais beaucoup et que je trouve être parmi les plus doués de leur génération. Et c'était des rôles qui étaient assez éloignés d'eux. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'était l'occasion, et pour eux et pour moi, d'avoir un challenge, de les déplacer. Et de leur demander de faire un vrai travail de composition. Moi, mon obsession, c'était vraiment qu'on oublie Vincent Lacoste, qu'on oublie Anaïs de Moustier. Et Vincent, par exemple, je lui ai demandé de perdre 7 kilos pour le film. Parce que je voulais qu'il perde son côté juvénile, sa bonhomie. Je voulais qu'il incarne même physiquement, en fait, ce côté fragile, fébrile, de quelqu'un qui se consume un peu de l'intérieur. Je lui demandais aussi d'aller chercher quelque chose de plus précieux dans son jeu, une articulation différente, une timidité. Enfin, et Anaïs, Elle avait une partition aussi qui était vraiment difficile parce que c'est un personnage, Madeleine, qui est assez, qui dégage des émotions ambivalentes chez le spectateur. On l'aime, on l'aime pas, on a envie de la suivre, elle nous dérange, elle finit par nous toucher. Et pour ça, j'avais besoin d'aller vers quelqu'un de très solaire pour porter ça. Et Anaïs, elle a ça en elle. Et en même temps, elle est d'une telle précision dans le jeu, telle subtilité, telle profondeur que je savais qu'elle allait faire vivre ce personnage d'une manière géniale, et c'est ce qu'elle a fait.
Vous parliez de sécheresse, enfin, du moins, c'est vrai que dans la relation entre François et Madeleine, il y a quelque chose de totalement désarmant, de candeur, c'est-à-dire qu'elle lui dit très vite il tombe amoureux, enfin très vite il s'aime, et très vite elle lui dit quel est son secret, et ensemble ils le cachent, et ensemble ils cachent leur secret de manière extrêmement simple, en fait. Et en effet, cette magnifique histoire d'amour entre eux et en contradiction avec le souvenir qu'on a pendant tout le film qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas son fils, enfin que son fils lui a demandé de l'aimer et qu'on a compris qu'elle l'aimait pas. Donc on est tendu jusqu'à la fin entre ces deux pôles par rapport au personnage de Madeleine.
Oui, en fait pour moi c'était très important en fait de représenter un personnage féminin qui soit loin des clichés, en fait, et sur la maternité, et sur la sexualité féminine, et sur le rôle de la femme dans le couple. C'est un pari, c'est toujours un pari de représenter une mère qui n'aime pas son enfant, ou en tout cas qui n'arrive pas à l'aimer. Parce que pour moi, il y a de l'amour entre elle et son fils. Mais cet amour est coincé, empêché, parce que cet enfant la renvoie constamment à ce traumatisme et à sa faute, en fait, à sa honte. Et le temps d'aimer, c'est vraiment le temps qu'elle va mettre à s'autoriser à donner de l'amour à cet enfant. Mm-hmm. Et c'est aussi le temps d'aimer pour leur couple, parce que ils vont avoir des épreuves à traverser qui sont liées à leur divergence sociale et leur divergence sexuelle. Mm-hmm. Donc c'est le temps qu'ils mettent à s'apprivoiser, à se comprendre, à inventer leur histoire, leur famille. Et puis c'est le temps aussi pour Vincent d'accepter ou enfin en tout cas de vivre sa sexualité à lui et ce qu'il a pas son temps à vouloir mettre de côté, enfin sa charrie, tout ça.
C'est un film sur trois sortes d'amours différentes, en fait. Il y a l'amour l'amour tel qu'on le connaît, l'amour maternel, et le compagnonnage, la cam qu'elle a avec François.
Oui, c'est vraiment une réflexion sur le couple, en fait. Qu'est-ce que faire couple? Est-ce qu'il faut nécessairement une complicité sexuelle, une entente sexuelle pour être un couple? Et même une sexualité, tout simplement. Est-ce qu'être couple, ça peut être compagnon de vie, tout simplement, partenaire? Mm-hmm. Est-ce que faire famille, c'est nécessairement biologique? On est face à un homme qui n'est pas un père biologique et qui pourtant est un très bon père, face à une mère biologique qui n'arrive pas à être mère. Ça parle aussi du spectre de la sexualité comme un spectre beaucoup plus large que ce qu'on voudrait représenter en général, c'est-à-dire que François est homosexuel mais il peut aussi avoir des relations sexuelles avec une femme. Est-ce qu'on peut avoir du désir sexuel pour un genre et de l'amour pour un autre genre? Ça pose toutes ces questions qui traversent en fait la vie de la plupart des gens sans qu'ils en parlent forcément, mais voilà.
Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'au moment de la libération, pour Madeleine en tout cas, le moment de la libération est le moment où les tabous et le carcan de quelque chose lui tombent dessus. Et on sait qu'il existe, on sait que ça existe en dehors de l'univers auquel qu'on suit pendant tout le film, mais comme on est tout le temps avec Madeleine et François, on a conscience de ça, mais on voit un espace sans tabou. Ils existent dès le début dans leur univers à eux où il n'y a aucun tabou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait, pour moi, cette histoire, elle parle aussi beaucoup de la part de l'inconscient dans les rencontres entre les êtres, notamment dans les rencontres amoureuses. Je me suis toujours figuré que Madeleine et François, c'était comme deux êtres qui portaient en eux une part blessée, une part inconsolée, une part honteuse, et que d'une certaine manière, dans les premières minutes de leur rencontre, ils vont se reconnaître. Mais ce sont leurs inconscients qui vont se reconnaître. comme s'ils sentaient à travers ce petit échange entre eux qu'ils allaient pouvoir ensemble se protéger l'un l'autre. Lui, il a déjà cette infirmité, il boite, il y a un déséquilibre déjà chez lui. Elle est veuve, et il y a une place à prendre dans sa vie. Il lui dit qu'il n'a pas fait la guerre, et c'est pas un héros. Alors que elle, c'est tout sauf une héroïne, c'est même une traître. Il n'a pas toutes ses horreurs dans la tête, il l'a pas combattu, donc quelque part, elle ne peut pas l'associer aux hommes qui l'ont entre guillemets violée ou violentée. Donc tout ça en quelques minutes fait qu'il y a quelque chose qui hop se greffe, un espoir en fait très très puissant chez l'un comme chez l'autre de survivre à leur secret, de se défendre d'une société qui ne veut pas d'eux. Et du coup c'est forcément un pacte de tolérance. Et donc leur zone de confort entre eux, elle va être du côté de la tolérance. C'est voilà, je t'accepte, tu acceptes mon secret, j'accepte le tien, et on va cheminer ensemble jusqu'à ce que, une fois que le couple a vécu déjà plein d'épreuves, cette question du pacte secret ressurgit quand on les voit se disputer vers la fin du film et qu'il lui dit, elle lui dit, je suis ta couverture, et qu'il lui répond, mais moi aussi j'étais ta couverture. Il y a quelque chose qui explose de ça, de ce pacte de départ inconscient. Mmh. Et en même temps, si cette dispute a lieu, c'est parce qu'il y a de l'amour entre eux. Ils ne sont jamais dans l'indifférence, en fait. Il y a encore cet espoir d'être aimé totalement de l'autre, d'être complet ensemble, alors qu'en fait, ils n'y arriveront jamais. Et pour moi, ça, c'est une réflexion sur le couple en général. Ça ne tient pas qu'aux divergences sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a dans le couple quelque chose de toujours incomplet. Il y a toujours un hors-champ en couple, il y a toujours du fantasme, il y a toujours une tierce personne, il y a toujours des renoncements, des frustrations. Ça, c'est l'histoire de n'importe quel couple, en fait.
Je peux vous dire que des premières images jusqu'aux dernières, je suis partie avec le temps d'aimer. Merci beaucoup, Catel Kiyevere.
Merci beaucoup à vous.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.